en direct jusqu'à 13h30. J'ai l'immense plaisir de recevoir, de retrouver Nicole Copé. Bonjour.
Bonjour Emna, merci infiniment pour cette invitation qui me touche.
C'est moi qui vous remercie. Notre première rencontre date de 2017 sur les ondes de RTCI. Quel plaisir de vous retrouver. Merci. Nicole Copé combine musique, poésie, expression, audio, visuel, intégrant le dessin de calligramme et la danse dans ses créations. Elle est poète, elle est musicienne, elle est reconnue pour sa philosophie pédagogique innovante, favorisant la création, l'expression artistique et la transmission des arts dans une approche multidimensionnelle. Auteur de nombreux recueils et publications, elle a été récompensée par le prix international de poésie audiovisuelle et le prestigieux prix, le prix Guillaume Apollinaire en 2023. Son travail s'inspire des cultures et paysages du monde entier, allant de la musique classique à la poésie du désert tunisien, créant une interaction unique entre art et humanité. Encore une fois, merci d'être avec nous sur RTCI. Alors, Nicole Copé, vous êtes notre invitée pour nous présenter, entre autres, récits de vie et de création artistique, propos recueillis par Mohamed de Bouhouch, qui écrit, je le cite, ça nous permet d'aller dans le vif du sujet, d'entrer dans le vif du sujet, je le cite, donc le présent livre que nous présentons au lecteur est l'effort conjugué, l'échange partagé entre deux poètes de deux rives différentes, moi, Mohamed Bouhouch, écrivain tunisien, et elle, Nicole Copé, artiste et poétesse, pédagogue, musicienne. Voilà, donc il résume en quelques lignes la rencontre et puis ce projet qui a eu lieu entre vous. Donc vous avez fait connaissance il y a 15 ans, c'est ce qu'il dit dans la préface du livre. Parlez-nous un peu de cette rencontre, Nicole Copé, avec Mohamed Bouhouch.
Alors j'ai eu la joie d'être invitée à Tozer, plus exactement à l'Oasis, et il y avait là beaucoup de poètes en soirée, dont Mohamed Bouhouch, et j'ai trouvé immédiatement que ce poète était extrêmement cristallin, raffiné. On a toujours gardé des contacts et ça aboutit sur plusieurs échanges, mais l'objet qui a été le déclencheur du livre, la poétesse Nicole Copé, récit de vie et de création, c'est que Mohamed Bouhouch a vu une vidéo où un jeune de mon école posait des questions sur le calligramme. Et il m'a dit, j'aimerais également faire une interview qui pourrait aboutir sur des journaux tunisiens. Mais voilà, à force de poser des questions, on a abouti au livre.
Alors justement, comment vous est venue l'idée de faire ce livre? Pourquoi ce format, celui de l'entretien? Donc l'idée vient de Mohamed Bouhouch, mais pourquoi avoir opté pour ce format-là, le format journalistique?
Eh bien, je me suis simplement adaptée à ces questions définitives sans savoir vraiment où j'allais, mais j'avais l'impression pendant l'été qu'il allait arriver quelque chose d'un peu particulier. Je ne savais pas quoi, mais je suivais un peu la lumière au fur et à mesure. Voilà, je dessinais des calligrammes, j'écrivais de la poésie et tout d'un coup, Mohamed Bouhouch se met en contact avec moi pour débuter ces questions, cette interview qui devait peut-être aboutir sur 5-6 questions à diffuser sur des journaux. Et voilà, c'est le développement.
Alors vous répondez aux questions de Mohamed Bouhouch, il vous en pose pas mal questions, entre autres sur votre enfance, et puis j'apprends, alors qu'on se connaît à travers les entretiens depuis 2017, j'apprends que vous avez des racines plurielles, j'apprends aussi des choses sur vos premiers liens avec l'art et la poésie. Est-ce que, par exemple, Nicole Copé, vous considérez, comme beaucoup d'écrivains, que l'enfance est un lieu poétique?
Je pense que, sincèrement, oui, parce que dans mes racines, j'ai eu toujours un peu l'impression, même si ma maman était italienne et mon père était suisse, d'être d'ailleurs. Ce qui m'a donné aussi l'inspiration du poème « je suis d'ailleurs et pas de ce monde, de l'autre rive, sur cette rive, ici, mais là-haut, très haut, mais ici-bas, les oiseaux gazouillent aigus et graves ». Et donc, en définitive, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, dans ce monde, certes, mais certainement avec peut-être une mission, je ne sais pas.
Est-ce que vous vous sentez, Nicole Copé, comme étant une poétesse nomade?
Ah, absolument, absolument. Parce que le souffle m'a toujours inspirée, que le silence m'a toujours inspirée. Et au désert, vraiment, j'ai senti que l'inspiration pouvait, pouvait vraiment ressurgir à une dimension spirituelle. Pour moi, l'art est directement lié à la spiritualité.
Alors, vos voyages, notamment en Tunisie, puisque vous évoquez le désert, notamment dans le Sahara, vous ont marqué. Est-ce qu'ils ont transformé votre perception artistique et si oui, de quelle manière?
Alors, complètement, dans le sens que là, je me suis retrouvée vraiment dans mon élément. En écoutant justement, je dirais, l'invisible, le silence dans le son dans le silence, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on pouvait vraiment être dans une relation, je dirais, terre-ciel, qui pour moi est vraiment fondamentale. C'est vraiment l'univers, le cosmos qui donne l'inspiration, comme selon le texte de la création du monde dans la Genèse de la Bible, par exemple.
Alors, quel souvenir gardez-vous justement de votre tout premier contact avec le désert, votre toute première fois? Vous savez, cette toute première impression qu'on a quand on met les pieds dans le désert.
Mais j'ai eu l'impression de venir un peu de là.
Comme si je me suis dit, retour à soi, retour aux sources.
Oui. Et même, on m'avait montré dans le zoo de Tozer tous les serpents et autres, et je me disais, mais au désert, rien ne peut m'arriver, je le connais. Je le connais. J'ai eu l'impression qu'il faisait partie de moi-même parce que vraiment cette dimension spirituelle pouvait ressurgir. Ouais, vraiment.
Alors c'est une immersion dans le désert tunisien, vous allez revenir plusieurs fois, qui va durer à peu près 4 ans.
4 ans, oui. Ouais.
Comment est-ce que ces cultures locales se reflètent-elles dans votre travail et dans vos écrits?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis arrivée pour ces 3 jours de poésie à Tozer, j'avais pris avec moi mon caméraman de façon à pouvoir tourner un poème de Rumi. Mais en voyant la situation, parce qu'on était en pleine révolution ou l'après-révolution, je dirais, je me suis dit, mais c'est complètement faux d'arriver avec quelqu'un qui m'encadre comme ça et qui va me suivre et faire des tournages qui soient en définitive pas tout à fait à la dimension du lieu. Donc, je suis revenue immédiatement, j'ai créé mon équipe et j'ai travaillé avec les cultures parce que pour moi, ça c'était vraiment fondamental, quoi. Créer mon équipe, mon caméraman, mon figurant, vraiment mon équipe et de façon à renforcer et faire travailler les gens. Il y a aussi à valoriser le lieu parce qu'immédiatement, cette sensibilité m'a paru vraiment, vraiment proche de moi, quoi. Comme je dis aussi, j'ai des racines de l'Italie, mais du fond de l'Italie. Et donc, c'est pas loin. Et en définitive, voilà, c'est cette sensibilité artistique qui m'a happée.
Alors, qu'est-ce qui nourrit votre créativité, votre imaginaire, votre écriture? On a parlé du désert, mais encore, Nicole Coppé.
Mais tous les éléments, tous les éléments m'attirent. Parce que je suis venue ici aussi à Tunis tourner avec l'eau, vraiment le film qui s'appelle Unité Vibration. Et là, on avait besoin de tous les éléments. En définitive, dès que je suis dans un rapport avec la nature, je trouve que c'est juste. Parce que la poésie, elle doit être pure pour moi. Elle doit être pure et en relation directement avec le divin. C'est là où je me trouve le mieux. Donc, que ce soit au désert, avec le sable, le souffle, ou bien avec l'eau ici, dès qu'on est dans cette relation avec la nature, on est, pour moi, dans cette vibration.
Vous parlez de vibration, puis il y a quelques petites minutes, vous parliez du silence. Quelle importance accordez-vous justement au silence, à la musicalité, au rythme dans votre travail poétique, au style?
Alors, je dirais, c'est dans ma vie artistique, en règle générale. Déjà, comme musicienne, le silence fait partie de la musique.
Vous avez votre école de musique?
Voilà, c'est ça. J'ai l'école d'autre-musique qui est fondée vraiment sur une philosophie. Et donc, dans ce rapport-là, j'ai aussi appris aux enfants à écouter le silence. Parce que déjà, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Se retrouver dans la tranquillité, et c'est donc dans l'ancrage, la concentration, qu'on peut créer et entendre et développer sa vie intérieure. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Aussi cette transmission, justement. Lorsque je suis venue ici, je pensais aussi à toute cette génération qui devait suivre et qui pouvait peut-être recevoir à travers mon inspiration un message dans le silence, l'invisible et tous ces éléments qui font partie de la vie mystique.
Alors vous en parlez dans ce livre où vous vous dévoilez, on va en parler dans quelques instants, un livre qui sera prochainement distribué en Tunisie, un beau livre On peut dire que c'est un beau livre hein, que vous avez là entre les mains, récit d'une vie et de création artistique. En tant que poétesse, vous accordez une grande importance au calligramme.
Oui.
Alors, selon Apollinaire, un calligramme, c'est le terme qu'il a inventé, est un poème où les mots disposés dans l'espace forment un dessin en lien avec le sujet du poème, créant ainsi une fusion entre le texte, l'écriture et l'image, le dessin, une poésie visuelle qui allie sens et forme, je cite Apollinaire. Mais vous, Nicole Coppée, en 2025, quelle est votre définition personnelle du calligramme, votre approche à vous du calligramme?
Alors déjà, je pense que pour moi, le calligramme, c'est le mouvement en relation directement avec la personne. Ça veut dire que depuis le début, même si je faisais des jeux de sonorité, il m'était nécessaire de les retranscrire en mouvement sur la page. Et ça, je me souviens, c'est un moment extrêmement fort où il était impossible pour moi d'écrire uniquement à l'horizontale. Et donc, je me suis dit, mais c'est, dès qu'on est en mouvement dans cette globalité, c'est une nécessité de le faire. Et c'est pour ça que je qualifie le calligramme comme étant un élément naturel qui est uniquement la prolongation de ce que je suis pour moi. Voilà.
Est-ce que vous vous inspirez de ce qu'a fait, par exemple, Apollinaire, maître du genre?
Alors, je dirais pas tellement, en définitive, parce que je trouve qu'on doit toujours développer les éléments. Et j'ai été beaucoup plus loin pour rechercher certaines sources comme Simmias de Rhodes, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui est où cette poésie graphique était déjà très très prenante et très existante, et je me sens vraiment en relation directement davantage sur ces précédents.
D'ailleurs, Mohamed Bouhouch, qui a recueilli ces propos, dit en parlant de vous que vous êtes une poétesse calligraphique, entre guillemets, mais il met le mot entre guillemets. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ah, tout à fait, tout à fait. Pour moi, déjà, il y a plusieurs phases de création. Il y a l'écriture du texte. Il y a l'enregistrement du texte, parce que ça me semble fondamental aussi qu'on puisse exprimer avec les émotions qu'on a pu percevoir. Il y a le dessin, et puis il y a la mise vraiment en film, ce qui veut dire que j'ai toutes les étapes pour que le poème en tant que tel touche l'être humain sur plusieurs facettes.
Oui. Alors, on parlait de calligraphie. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un autre aspect de Nicole Coppé, à savoir celui de pédagogue.
Oui.
Puisque vous êtes directrice d'une école de musique. En tant que pédagogue, comment est-ce que vous partagez la poésie vivante avec vos élèves ou dans le cadre des ateliers, par exemple?
Alors, je la partage de manière indirecte et subtile, parce qu'en Suisse, pour être sincère, il n'y a pas une grande sensibilité, je dirais même artistique. Disons, la sensibilité artistique ou poétique n'est pas la même que la mienne. Donc, au lieu d'être frontale, je contourne. J'écris par exemple aussi des contes poétiques, philosophiques, ce qui permet aux enfants d'approcher, de faire des lectures. On fait des passerelles Orient-Occident pour les poèmes ou les contes justement. Et tout d'un coup, on entend un mot dans un poème ou dans un conte qui est poétique. Voilà, je pense par exemple bêtement et étincelle, on pourrait penser bêtement ciel, et rien que comme un pavé au milieu de la mare, on a une vibration autour de ce mot. Et c'est ça pour moi qui est le plus important dans la transmission, c'est de transmettre le silence en définitive. Bah, on revient toujours à ça.
C'était ma question. Quels éléments essentiels pour vous, du moins Nicole Coppé, souhaitez-vous transmettre aux nouvelles générations de créateurs? Qui sait, vous avez peut-être et certainement même parmi vos élèves de futurs créateurs, de futurs artistes.
Oui, je pense que le plus fort là-dedans, c'est la mission vers laquelle on est amené. J'ai toujours ressenti que j'avais une âme missionnaire depuis le début. Et donc, plutôt que de parler, je montre. Je monte plusieurs projets artistiques de façon à introduire les enfants de manière, et même les adultes de manière indirecte. Juste avant mon départ, justement, il y a une lecture poétique d'une maman et d'un enfant. Et ainsi, ils travaillent ensemble pour tous les passages de diction, mais aussi de transmission. Et ils ont l'impression d'être aussi valorisés dans ce travail, sans même se rendre compte que finalement, ils intègrent la poésie.
Alors, je tenais aussi à préciser à nos auditrices et à nos auditeurs que vous avez publié un livre en Tunisie, Souffle d'or sur une mer rouge.
Oui.
C'était en 2017, je crois, à peu
peut-être
près,
16 ou par là, ouais.
Aux éditions,
oui.
Aux éditions Arabesques.
Oui.
C'est pour dire justement votre lien au pays. Je le disais il y a quelques instants, dans ce livre, on apprend des choses sur vous.
Oui.
Et vous me le disiez en off, je suis quelqu'un de discret. Alors, est-ce que c'était facile pour vous de vous soumettre au jeu de l'entretien avec Mohamed Bouhouch, de vous dévoiler, parce qu'on apprend pas mal de choses sur votre vie, vos racines, votre enfance, votre maman, le lien à certaines personnes. Donc, est-ce que ça a été facile de jouer le jeu de l'entretien?
Bien, je dois dire qu'il est quand même assez subtil, hein, Mohamed Bouhouch, parce que j'aurais peut-être pas accepté de me dévoiler comme ça. Et en même temps, si j'ai accepté de le faire, justement, c'est parce que j'ai senti à travers lui aussi la possibilité de transmettre que l'âme d'un poète ou d'un artiste doit être aussi expliquée au monde. Mmh. Parce qu'il y a tout un équilibre, il y a toute une structure, il y a toute une philosophie, il y a toute une spiritualité. C'est pour ça que je reviens aussi sur l'éditeur du livre qui a perçu tout ça. Et Monsieur Najjar, à travers les éditions Aram, en a fait un bel objet justement pour mettre en valeur tous ces éléments. Et je crois que c'est important de transmettre la beauté tout le temps. La beauté, que ce soit la beauté d'un texte, que ce soit la beauté par un exemple, mais aussi la beauté d'un objet. Et pour ça, les deux ont été très conséquents.
Alors, on retrouve bien sûr vos mots, les propos recueillis par Mohamed Bouhouch. On retrouve des dessins.
Oui, les calligrammes.
Des calligrammes.
Ouais.
Parlez-nous un peu de ce livre-là, de son contenu et puis de ces calligrammes qui jalonnent l'ouvrage.
Je trouve déjà que l'idée finalement de débuter sur une interview, très subtilement menée, je le répète, parce que j'avais au début peut-être 8 questions, mais au bout de 8 questions, il y a une deuxième série de questions. Je me suis dit, bon, ok, je vais me mettre au jeu. Pas j'avais déjà la disponibilité à ce moment-là, hein. Ça aurait été comme maintenant, c'était pas possible. Puis après une troisième série, je me suis dit, bon, ok, mais moi je vois pas ça dans des journaux tunisiens, donc ok, je joue le jeu. Il est subtil, j'aime cette subtilité et j'aime cet état de profondeur d'âme.
Est-ce qu'il y a un moment dans ce livre, je crois qu'on peut parler de moment, hein,
oui.
Un moment fort pour vous, une sorte de chapitre ou de page que vous aimez particulièrement?
Non, mais je répondrai tout simplement sur un plan émotionnel. Le début, où il parle, déjà rien que de répondre à cette question m'émeut, où il me parle de ma vie, de mon enfance, et j'ai dû répondre, je n'ai pas eu beaucoup d'amour.
Oui, c'est pour ça que je disais que vous vous dévoilez dans ce livre. Pour
vraiment.
Ceux qui vous connaissent, en tout cas dans, entre guillemets, la vraie vie, savent que ce n'est pas forcément votre nature. 2025 touche à sa fin, Nicole Copé.
Oui.
Je vais vous demander de nous parler d'un moment que vous retenez particulièrement, un moment marquant. En 2025 pour vous?
Ça m'est difficile de dire un moment parce que dans ma vie, j'ai l'impression tout le temps de suivre la lumière. Donc de citer qu'un instant, qu'un moment, serait négliger peut-être cette mission qui m'appelle à la lumière. Mmh. Donc je pense que tout se raccroche et tout élément est lumière et chacun des événements qui a pu ressurgir fait partie d'un tout. C'est un petit peu particulier de répondre comme ça, mais oui, ça veut dire que j'accepte et que je construis sur la base de ce que je vis.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026, mais encore, quels sont vos projets?
La même chose, je vais suivre la lumière. J'ai beaucoup de lumière, là, je commence de plus en plus à avoir des choses à refuser aussi. Ça me désole, parce que j'ai toujours voulu avoir cette simplicité, parce que je trouve que l'art est directement lié à la simplicité et la pureté. Mais bon, on ne peut pas être partout.
Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur RTCI pour parler de votre parcours et présenter le livre Récit de vie et de création artistique. Merci encore Nicole Copé. Je rappelle, le livre sera prochainement distribué en Tunisie, mais vous pouvez également retrouver Souffle d'or sur une mer rouge, un recueil qui a vu le jour en 2017, publié par Arabesque, disponible chez nos libraires. Merci encore.
Merci. merci à vous. Et puis, je rappelle juste que c'est aux éditions Aram que ce livre sort. Et j'aimerais remercier aussi officiellement Monsieur Najjar par rapport à cette sensibilité.
Merci.
Merci à vous.
On vous souhaite à
merci
vous tous
beaucoup.
Beaucoup de succès. On retrouve cet entretien en streaming sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker. On reste ensemble sur RTCI jusqu'à 13h30, toujours en direct. Il est midi 33.